Pour co-animer ce débat, la matinale accueille aussi Raphaël Chalvera. Bonjour.
Bonjour.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Raphaël, vous nous présentez les enjeux de cette votation.
Oui, il faut tout d'abord poser le cadre. Tout le monde s'accorde en Suisse pour dire qu'il faut sortir progressivement du nucléaire. C'est la manière de le faire qui fait débat. Dans sa stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral prévoit que les 5 centrales nucléaires qui sont en service dans le pays ne seront pas remplacées quand elles arriveront en fin de vie. En attendant, ces centrales qui produisent 40% de l'électricité suisse peut fonctionner aussi longtemps qu'elles sont jugées sûres sous le contrôle de l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Une fois au bout, elles fermeront et on passera à autre chose. L'initiative soumise au vote veut aussi interdire la construction de nouvelles centrales, mais elle veut en plus limiter la durée d'exploitation des 5 existantes. En cas de oui, le 27 novembre, Mühleberg, Beznau 1 et Beznau 2 devront être mises hors service en 2017, soit l'année prochaine déjà, celle de Gösgen en 2024 et celle de Leipzig en 2029. Les autorités fédérales rejettent l'initiative. Impossible, selon elles, de compenser si vite l'abandon de l'électricité nucléaire par la production d'électricité au moyen d'énergie renouvelable. Il faut plus de temps. La Suisse serait entre-temps contrainte d'importer de grandes quantités d'électricité de l'étranger. De plus, les exploitants des centrales nucléaires suisses pourraient exiger d'immenses montants de dédommagement pour les investissements qu'ils ont faits. Le comité d'initiative, lui, estime que la Suisse est pleine d'énergie et qu'elle peut remplacer l'électricité nucléaire par de l'électricité issue de l'eau, du soleil, du vent et de la biomasse. Le calendrier qui s'étale jusqu'en 2029 doit permettre aux entreprises et aux compagnies d'électricité de mieux planifier leur activité. Enfin, cette initiative est aussi une question de sécurité. En cas d'accident nucléaire grave, une grande partie du pays serait contaminée par la radioactivité.
Voilà pour le décor. Erika Henkin, la volonté du Conseil fédéral de sortir progressivement du nucléaire est connue. Elle va finalement dans le sens voulu par ceux qui militent pour le développement des énergies renouvelables. Cette initiative sortir du nucléaire ne met-elle pas un grain de sable dans le processus?
Écoutez, non, pas vraiment dans un premier temps. Vous savez que la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral qui a été adoptée par le Parlement, dans un premier temps, le Conseil fédéral proposait également de limiter la durée des centrales nucléaires à 50 ans. Si ça avait été accepté par le Parlement, nous, on aurait retiré l'initiative puisqu'un délai leur est octroyé. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a un parc nucléaire qui est vétuste, avec les plus vieilles centrales nucléaires du monde, et que ça pose un grave problème de sécurité.
Mais vous n'avez pas quand même un peu l'impression qu'on vous tend la main dans cette politique énergétique 2050 et que finalement vous arrachez carrément le bras ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut, pour plusieurs raisons dont on va discuter tout à l'heure, je pense que il est vraiment extrêmement important de donner une durée de vie aux centrales. Tout le monde sait qu'elles ont été construites pour 30 à 40 ans. Et toute la durée au-delà de ces durées de vie constitue des dangers pour la population. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important de dire à tel moment on arrête, aussi pour des raisons économiques.
Alors Pauline Collot, la Suisse exploite aujourd'hui un vieux parc nucléaire, le plus vieux du monde même, dit-on. Pourquoi ne pas accélérer le processus de fermeture des centrales ?
Alors tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens actuellement de fermer toutes les centrales nucléaires. C'est beaucoup trop précipité. Vous l'avez dit avant, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut sortir du nucléaire, mais de manière progressive. Et progressive, ça veut dire pas précipitamment, immédiatement, dès l'année prochaine. L'année prochaine, on devrait fermer 3 centrales nucléaires sur 5. C'est énorme. On perdra 15% d'énergie à ce stade-là. Il faudra remplacer 15% directement. Et le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens parce que les énergies renouvelables ne sont pas encore assez développées en Suisse. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres. Les énergies renouvelables en Suisse produisent 2,6% d'électricité en Suisse contre 40% des centrales nucléaires. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'on peut s'autosuffire, qu'on peut très bien fonctionner avec de l'électricité issue d'énergies renouvelables, ce n'est pas possible.
Alors, prenez le nom à une proposition qui dit que dans l'an prochain, on ferme 3 centrales nucléaires. Quelque part, ça veut dire que vous assumez un éventuel accident, je ne sais pas moi, à Beznau en 2020 ?
Alors, déjà, la première chose, c'est que, vous l'avez dit aussi avant, il y a une inspection fédérale qui contrôle les centrales nucléaires très régulièrement. Au moindre problème, les centrales doivent être arrêtées immédiatement.
À Fukushima aussi, peut-être.
Alors à Fukushima, il y avait peut-être aussi des inspections. Fukushima, c'était quand même un cas particulier parce que à Fukushima, il y a d'abord eu le tremblement de terre et là, la centrale s'est arrêtée correctement, sauf que il y a eu une circonstance exceptionnelle, un tsunami qui est venu ajouter des complications et c'est là que les problèmes sont survenus et c'est ce qui a fait exploser la centrale.
Mais
et
une semaine avant à Fukushima, on pouvait encore lire sur le site officiel que cela n'arriverait jamais, même dans ce cas particulier avec la mer à côté. Hein. Cela dit.
Mais peut-être, mais en l'occurrence, cette centrale était quand même construite à côté de la mer. En Suisse, c'est pas le cas. Donc il n'y a aucun risque de tsunami en Suisse. Donc aucun risque que les centrales soient inondées.
Et des risques sismiques, non plus.
Il y a des risques sismiques, mais les centrales sont conçues pour résister aux problèmes de tremblement de terre. Et puis Tchernobyl, puisque c'est la deuxième grande catastrophe qui est survenue dans une centrale nucléaire, depuis que toutes les centrales existent, il y avait là de sérieux problèmes de sécurité. Et là, je suis persuadée que ces contrôles, comme il y a en Suisse, n'existaient pas. Il y a eu une série d'erreurs humaines, il y a eu des défauts dans la conception de la centrale, et les centrales en Suisse ne sont pas conçues de cette sorte.
Alors, Eric Henke, peut-être...
J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que Mme Queloz dit que ce n'est pas possible de fermer trois centrales l'année prochaine, mais j'aimerais quand même dire qu'actuellement, il y en a deux qui sont arrêtées, la plus vieille et la plus récente, c'est-à-dire la plus faible en capacité, enfin une des plus faibles, disons, et puis celle qui produit le plus d'électricité. Et ça, depuis quelques mois, une des deux depuis une vingtaine de mois. Et puis voilà, et puis on a le courant, on a le chauffage, tout fonctionne très bien. Et même au printemps, pendant quelques jours, toutes les centrales suisses nucléaires ont été fermées. Et puis l'autre chose concernant le séisme, la Leibstadt est bien, je pense qu'elle est bien construite par rapport à un séisme, mais les autres, les plus anciennes, pas du tout. D'ailleurs, l'inspection fédérale, l'IFSN, a demandé qu'il y ait des travaux qui soient faits justement pour que ces centrales puissent résister au séisme, mais les exploitants l'ont refusé.
Oui, j'aimerais juste répondre à ce que dit Mme Henkin sur le fait qu'il y a deux centrales actuellement qui ne fonctionnent pas, c'est vrai, mais il faut aussi relever qu'à côté de ça, on importe déjà de l'électricité de l'étranger. On importe, et ce n'est pas de l'énergie renouvelable qu'on importe, c'est du nucléaire. Et ce que demande l'initiative, c'est qu'on arrête encore une centrale en plus que celle qui ne fonctionne pas, et ça impliquera... Parce que dès l'hiver prochain, dans une année, on se retrouvera, si cette initiative est acceptée, avec des pannes de courant, ça je vous le garantis, et puis des problèmes d'alimentation. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour satisfaire la population qui a besoin de l'électricité, même si elle fait des efforts pour réduire sa consommation? On va importer de l'électricité nucléaire de France, du charbon d'Allemagne, et puis, et ça c'est de l'énergie sale. Et je ne comprends pas que les Verts puissent soutenir une telle chose, parce que c'est sûr que ça arrivera. Et on sera obligé d'en importer en masse.
Mais Madame Queloz, c'est ce qui se passe actuellement. On importe du charbon sale d'Allemagne.
Et oui, et c'est déjà aberrant.
C'est pas une aberration écologique, justement, il y a quelqu'un.
Mais bien sûr, mais pourquoi est-ce que personne ne dit rien maintenant et que tout à coup ça devient scandaleux après, quand on aura fermé les centrales? C'est maintenant que c'est scandaleux aussi.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà remplacer l'importation qu'on fait actuellement avec des énergies renouvelables avant de vouloir encore aller plus loin?
Erika Henkin, le Conseil fédéral dit que l'initiative méconnaît une réalité, celle de remplacer le nucléaire par le renouvelable qui prend du temps. Il faut approuver, financer, construire les installations nécessaires. La Suisse ne peut pas produire suffisamment d'énergie renouvelable dès l'an prochain. Est-ce que c'est un mensonge?
Alors, c'est pas vraiment correct de prétendre ça. Par exemple, je peux vous dire que Betznau 1, en fait, elle est déjà remplacée par les projets de renouvelables qui ont été mis en place. Betznau 2 et Mühleberg, donc, qui seraient aussi fermés l'année prochaine, seront remplacés par les 40 000 projets de renouvelables en attente de déblocage de la RPC. Vous savez que la RPC, donc c'est de l'argent qu'on donne aux particuliers qui mettent des installations de production d'énergie pour les aider à s'en sortir financièrement. On a 40 000 projets qui sont bloqués, et ceux-là, si on les met en place, eh bien, ils remplaceront l'électricité de Betznau et puis de Mühleberg.
Alors Pauline Collot, le développement justement des énergies renouvelables, c'est aussi la création d'emplois. Il y a de belles opportunités qui peuvent se créer. Refuser l'initiative, n'est-ce pas finalement tourner le dos à cette perspective, du moins ces prochaines années, pour les 40 000 projets que cite Mme Hennequin?
On y arrivera à la sortie du nucléaire. Un jour, bien sûr, on nous espérait qu'on pourra s'auto-alimenter et que ça créera des emplois. Mais d'ici 2050, le Conseil fédéral a prévu cette sortie du nucléaire. Là, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là, on est en train de confondre, justement. Et pour le moment, ce qu'on va faire dès l'année prochaine, c'est donner des emplois, oui, mais à l'étranger, en France, en Allemagne. Et moi, je ne comprends pas. Est-ce que ça ne dérange pas les Verts d'amener de l'électricité sale? Maintenant, j'aimerais quand même encore ajouter quelque chose. Tous les projets qui sont bloqués, dont parle Mme Hennequin, ce sont certes des projets, mais quand on voit le temps qu'il faut pour mettre sur pied un projet, quand on voit le temps qu'il faut pour obtenir un permis pour construire une cabane de jardin, par exemple, pour mettre sur pied ces projets, il faudra encore des années, des années.
C'est très suisse, on ne peut pas aller plus vite quand même une fois.
Ben, c'est très suisse, mais c'est comme ça, il n'y a, qu'à, y a bah, pas besoin d'aller bien loin. Juste ajouter encore ouais, ça. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, rien que dans le Jura. Quand on voit comme ça se passe, mais on se rend compte que la population n'est pas prête à passer comme ça si vite à totalement d'énergie renouvelable. Quand on veut mettre des éoliennes, il y a toujours des opposants, il y a toujours des gens qui hurlent où qu'on les mette. Quand on veut faire de la géothermie en Haute-Saône, il y a des groupements qui se forment et qui hurlent au tremblement de terre, au risque de tremblement de terre, à la pollution des sols, au gaspillage de l'eau et de l'air. Quand on veut mettre des panneaux solaires, c'est les associations de protection de la nature et du paysage qui nous tombent dessus en disant qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires sur toutes les maisons pour des questions de paysage, etc. Donc rien que dans le Jura, il faut qu'on se rende compte qu'on n'arrive pas à mettre en place des projets suffisamment rapidement.
Votre réponse?
Oui, alors je voulais d'abord réagir par rapport à l'importation d'énergie sale, mais ça c'est une question économique. Si la volonté politique était là, on pourrait très bien changer ça. Qu'est-ce qu'on fait? On importe de l'énergie sale bon marché et on revend de l'hydraulique qui est propre et renouvelable quand les prix sont élevés aux heures de pointe. Donc voilà, donc la Suisse y trouve son compte.
Mais que les autres polluent pour nous, ça ne vous dérange pas?
Mais si, mais bien sûr que oui, mais c'est pas une manière de procéder. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut que chaque région en Suisse prenne ses responsabilités pour produire des énergies renouvelables. Et là, avec la nouvelle loi fédérale, ce qui se passe, c'est que les procédures seront un peu simplifiées. Donc pour les installations d'énergie renouvelable, donc ce sera plus facile de les mettre en place. Bien sûr, on pourra toujours faire opposition. Et si un village ne veut pas d'éoliennes, eh bien voilà, on les imposera pas. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits, beaucoup de régions, les gens sont d'accord d'accueillir des panneaux solaires. Moi, à Courgenay, on a un super exemple. Et même des éoliennes, peut-être des plus petites que ce qui existe actuellement. Mais il faut une meilleure communication avec la population. Il faut mieux préparer la population avec ses projets. Et surtout, il faut écouter ce que la population a à dire, et répondre à cela.
Mais par rapport à ce que disait Pauline Collot, peut-être.
Mais j'aimerais dire aussi qu'on vient d'inaugurer deux superbes écoles autour de la gare de Lémont. Une haute école et puis une école de métier. Avec des jeunes qui ont envie de trouver des solutions, de s'atteler aux questions des énergies. J'ai un peu parlé avec eux. Un des grands problèmes, c'est le stockage de l'énergie du vent et du soleil. Eh bien, il y a des projets qui se mettent petit à petit en place. Il faut avoir confiance, mais surtout, il faut qu'on donne des délais. Si on donne un délai, si on dit en 2022, on va fermer Gusgun, eh bien, l'économie, elle sait que pour 2022, elle doit se préparer et qu'il y aura des acheteurs. Tandis que maintenant, on ne sait pas, l'économie, elle ne sait pas quand elle devra être prête pour ces projets. Donc l'incertitude est assez mauvaise pour l'économie et notamment pour notre économie locale.
Pauline Collot, vous vouliez rebondir?
Ça, c'est sûr que c'est mauvais pour l'économie. Si on empêche les entreprises de se fournir en électricité alors qu'elles en ont vraiment besoin, c'est sûr que ce sera mauvais pour l'économie. Et là, on favorise la décroissance, ce qui ne dérange peut-être pas le Parti des Verts. Je voulais juste ajouter avant que... À chaque projet, il y a des oppositions. Et c'est un droit, c'est normal, et ça restera, ce droit d'opposition, ce droit de recours, et ça engendre des procédures judiciaires extrêmement longues. Et jusqu'à ce que ces procédures aboutissent, on ne pourra pas mettre ces projets en œuvre. Et puis vous parliez tout à l'heure de volonté politique, mais ce que je trouve aberrant aussi de la part du parti des Verts qui propose cette initiative, c'est qu'à chaque fois qu'on propose des projets d'alternatives, c'est souvent... Les opposants sont souvent des membres du Parti des Verts, ou en tout cas des écologistes. Et ça, c'est une contradiction incroyable.
Oui, bon, les écologistes, ils ne sont pas tous chez les Verts. Hein. Il y en a aussi au PDC. Non, il ne faut pas mélanger les associations environnementales et le Parti des Verts. C'est quand même un peu différent, l'économie, l'écologie politique. Mais j'aimerais quand même dire aussi que moi, j'ai un peu du mal à comprendre qu'on défende les centrales nucléaires si on parle du côté économique. On sait qu'elles produisent à perte. Hein. Par exemple, le courant qui est produit à Leibstadt, il coûte 5,6 centimes. Celui de Betznau, 8,5 centimes. Donc c'est ce qui coûte à l'entreprise pour le produire. À Gösgen, 4,6 centimes. Et quel est le prix de vente sur le marché? C'est entre 3 et 4 centimes. Donc toutes ces entreprises qui sont, je le répète, je trouve dangereuses pour la population, elles perdent au total environ plus d'un demi-milliard par année. Non. Alors on ne peut pas, je veux dire, même économiquement parlant, ça n'a pas de sens de laisser venir cet argent. Il serait mieux ailleurs. Et d'ailleurs, l'argent pour le démantèlement, pour le stockage des déchets, on peut encore le chercher. Hein. Il n'est pas encore à disposition.
Vous nous amenez, Erika Henkin, au dernier thème qu'on souhaitait aussi évoquer dans ce débat. C'est justement le démantèlement, les dédommagements financiers. Axpo a menacé à coups de milliards dans la presse dominicale. C'est pour faire peur, non, Pauline Collot? Pour l'instant, il n'y a encore rien qui est prouvé que les exploitants pourront toucher en dédommagement.
Alors, ce qui se passera, c'est qu'on devra exproprier ces centrales nucléaires. Les propriétaires n'auront rien à dire, et quand il y a expropriation, c'est dans la loi, on doit indemniser. Et ces indemnisations se chiffreront à des milliards de francs. On entend des chiffres entre 2 et 4 milliards de francs, parce qu'il faut quand même souligner que les centrales nucléaires investissent actuellement pour garantir une sécurité maximum. Et rien que la centrale de Betznau 1, par exemple, a investi récemment 2,5 milliards de francs pour garantir une bonne sécurité.
Et est-ce qu'un investissement a été fait pour... Est-ce qu'un investissement a été fait en revanche pour le démantèlement des centrales, par les centrales?
Mais pas encore, mais ce serait possible si les propriétaires pouvaient planifier leurs investissements. Et ce serait tellement mieux que ce soit à leurs frais le démantèlement d'ici 2050.
Mais ça fait 40 ans qu'elles existent, ces centrales. Ça fait 40 ans qu'ils doivent mettre de l'argent de côté pour le démantèlement.
C'est évident. Quand même.
Il y a deux fonds qui sont prévus justement, et le contribuable, enfin le consommateur, paye un certain 0,8 centimes par kilowattheure, je crois, et ça doit alimenter deux fonds, un fonds de démantèlement et un fonds de gestion des déchets. Et ça, actuellement, c'est déjà prévu, mais c'est encore pas suffisant. Il faudrait continuer pour pouvoir démanteler les centrales avec ces fonds. Et si on démantèle les centrales nucléaires dès l'année prochaine, qui paiera? C'est le contribuable. C'est vous et nous. Et puis,
c'est bon, difficile d'assumer, Erika Henkin, ça, de voir dédommager à hauteur de milliards, comme
ouais,
ça, au frais du contribuable.
Qui sont demandés par les exploitants, ils essaient de demander un maximum. Ce que les exploitants pourraient obtenir au maximum, c'est de l'argent pour dédommager les travaux réalisés récemment. C'est imaginable. Ça représente quelques centaines de millions. Mais j'aimerais quand même ajouter une chose que je trouve vraiment importante. Une information qu'on a eue de la Sonntag Zeitung le 6 novembre, qui nous a appris que Alpiq voulait vendre ses centrales, voire même les brader. Ils ont essayé de les vendre à EDF. EDF n'en a pas voulu. Et puis, le patron d'Alpiq a affirmé qu'il était même d'accord de donner ses centrales à la Confédération. Donc on voit que c'est vraiment une perte d'argent. Économiquement, c'est un gâchis. Et puis, le patron d'Alpiq a même dit que personnellement, il était pour la sortie du nucléaire. Donc on voit qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas. Il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, j'ai confiance même aux majorités politiques. Le moment venu, on est capable de trouver des bonnes solutions. Et puis, on est capable aussi de développer les énergies renouvelables et surtout les économies d'énergie. On parle même pas de décroissance, mais les économies d'énergie, on peut déjà fermer une bonne petite centrale.
En conclusion, Pauline Collot.
Mais on est tous pour la sortie du nucléaire, les propriétaires des centrales nucléaires également. Seulement, ils ont investi, ils vont pas.
Non, on parlait de l'initiative, donc de ces délais qui sont clairs, qui sont connus.
Oui,
la dernière en 2029.
Je pense que le calendrier adopté par le Conseil fédéral est beaucoup plus raisonnable.
Il n'y a pas de calendrier.
D'ici 2050, on devra sortir du nucléaire. Et je voulais dire que pour ce que ça coûtera aux contribuables, hein, parce que c'est à chaque fois le contribuable qui taxera, c'est forcé, il faut compter le dédommagement des centrales nucléaires pour les propriétaires des centrales nucléaires. Il faut compter que l'énergie sera aussi certainement plus chère parce qu'elle proviendra d'énergies renouvelables. En tout cas, c'est le but. Et puis aussi, il faut souligner qu'il faudra adapter le réseau d'approvisionnement d'électricité depuis l'étranger. Et ça, on est obligé de construire un réseau supplémentaire. Et ça coûtera aussi très cher. Et il faudra au moins 15 ans pour le mettre en place.
Oui, en attendant, on perd, avec les vieilles centrales, on perd 1,5 milliard par année.
Voilà, mesdames, eh bien, quel débat animé. Merci pour votre participation. Pauline Collot, députée du PDC, Éric Hennequin, députée des Verts. Vous avez participé à ce débat en direct sur RFJ dans la matinale. J'espère que vous, auditeurs, vous êtes forgés en opinion. Il faut dire qu'il y a encore pas mal d'indécis à 12 jours du scrutin. Un scrutin qui s'annonce très serré. Ce débat, vous le retrouverez en podcast ces prochaines minutes sur notre site internet. Les Suisses se prononceront donc sur l'initiative Sortir du nucléaire le 27 novembre. Très belle journée.